Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Yannick.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait assez longtemps, vous avez une énorme actualité avec votre chronique quotidienne sur Europe 1, en librairie. Et puis on a eu le plaisir de vous accueillir à La Baule lors du festival Think Forward. J'aimerais commencer peut-être là-dessus, dans cette ville que vous connaissez bien, La Baule. Vous étiez l'invité d'honneur de ce festival Think Forward avec une intervention très remarquée. Vous n'avez pas été tendre à l'égard des écolos hein, et de tout leur discours sur la décroissance. Est-ce qui a été retenu?
Oui. Non, mais en fait, il y a une confusion sémantique. Moi, je me considère comme étant beaucoup plus écologiste que les Verts, enfin ceux en tout cas qui se présentent comme l'écologie politique. Parce que au fond, eux, ce sont pour la plupart des gens qui sont pour la décroissance et contre l'économie de marché. Donc leur combat est pas un combat pour l'écologie, c'est secondairement un combat pour l'écologie. C'est prioritairement un combat contre la société, finalement, dans laquelle on vit. Moi, je considère que la question écologique, elle est très sérieuse. C'est une question de décarbonation, hein, c'est-à-dire comment on transforme notre production pour émettre beaucoup moins de carbone. Et ça, c'est pas un sujet de décroissance, c'est un sujet de science, d'innovation, d'intelligence. Vous voyez. Donc oui, c'est vrai que je suis en colère contre ceux qui se présentent comme écolos et qui détournent en fait le débat public des vraies questions écologiques.
Alors, j'aimerais bien qu'on évoque un peu l'état d'esprit de nos compatriotes, des Français. Votre dernier livre, c'est pour un libéralisme populaire, Nicolas Bouzou. Ouais. Est-ce que finalement les Français veulent du libéralisme? Surtout depuis la crise sanitaire, ils veulent papa, maman. C'est-à-dire, ils veulent les congés payés, que l'État s'occupe d'eux, l'État les vaccine, l'État les soigne, l'État les protège. L'État, papa, maman.
Oui, mais vous connaissez, Yannick, la pensée libérale française et elle est assez riche et sans doute beaucoup moins caricaturale que ce que les Français, ce que nos concitoyens ont en tête. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que si on remonte au 19e siècle, où on a eu vraiment de grandes figures libérales en France, hein, Tocqueville, Bastiat, des politiques aussi, hein, Waldeck-Rousseau, Guizot, dans un genre un peu différent, dans un style un peu différent, on voit quand même que il y a une spécificité du libéralisme à la française. C'est un libéralisme qui est tourné vers la défense des plus fragiles, vers la défense des plus petits. C'est très clair chez Tocqueville, par exemple. C'est donc un libéralisme social. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai évoqué la question du libéralisme populaire. C'est un libéralisme qui ne se confond pas avec le patronat. Bastiat a écrit un texte merveilleux sur le droit de grève, par exemple, au nom de la liberté. Les salariés doivent avoir le droit de faire le droit de grève s'ils ne sont pas justement rétribués. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette question du libéralisme comme défense de l'innovateur, par exemple, par rapport aux très grandes entreprises, hein, par rapport aux GAFA, vous voyez que c'est quelque chose qui est très présent, qui est très important. Donc, cette question du libéralisme, qui, je m'arrête là, n'est pas qu'un libéralisme économique, hein, ça aussi, c'est très présent dans la doctrine libérale française, hein, un libéralisme qui est aussi sociétal, mais je pense que nos concitoyens, au fond, le connaissent mal. Et d'ailleurs, pour revenir à des choses beaucoup plus contemporaines, vous avez raison, Yannick, les Français sont peut-être pas des libéraux, mais enfin, ils sont pas non plus des socialistes, hein. Vous avez bien vu que Jean-Luc Mélenchon s'est encore ramassé à l'élection présidentielle, il est arrivé troisième, et il s'est ramassé une deuxième fois, malgré tout son talent oratoire, aux élections législatives. Donc, c'est pas non plus le sentiment que les Français soient des socialistes.
Si vous qualifiez Jean-Luc Mélenchon de socialiste, je le
mettrais alors
plutôt
après,
à l'extrême gauche.
Oui, non mais alors attendez, si vous prenez des gens très raisonnables comme Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, Manuel Valls par exemple, dans sa politique économique, dans sa conception de la politique économique, il y a quand même pas mal de libéralisme, même dans sa vision sociétale, vous voyez. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de confusion dans nos débats, mais qui sont pas aussi tranchés que ça. Puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis un libéral, je peux pas vous dire les Français sont pas libéraux, donc je m'exile à l'étranger,
oui,
c'est pas
évidemment. Alors, c'est très intéressant parce que vous évoquez la nécessité de réconcilier les classes populaires avec le libéralisme.
Oui.
En réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais les classes populaires, elles sont déjà dans le libéralisme. Parce que le livreur d'Uber Peut-être qu'il n'est pas content parce qu'il est mal payé ou d'Amazon. Mais lui, il a envie de créer sa propre boîte et se dire, je vais recruter d'autres. Il est déjà libéral dans sa tête. Les petits commerçants sont des libéraux. En fait, la France des pauvres, elle est libérale. La France qui est anti-libérale, c'est la France à 5000 euros par mois qui bosse chez Total ou à la SNCF.
Mais là, je crois que vous dites quelque chose de très profond, Yannick. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais, dans la tradition libérale française, le libéralisme ne s'identifie pas du tout à la grande entreprise. Ou pour le dire dans le langage moderne, c'est pas au MEDEF qu'on va trouver les plus grands libéraux. Vous savez, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui demandent des rentes, qui demandent des avantages fiscaux, etc., des protections. Donc, vous avez raison de rappeler que beaucoup de Français font du libéralisme comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Il y a énormément de dirigeants d'entreprises en France, il y a énormément de créateurs d'entreprises. La France est l'un des pays au monde où on crée le plus d'entreprises, on crée beaucoup de start-up, vous avez beaucoup d'indépendants, vous avez beaucoup de gens, même d'ailleurs parmi les salariés, qui veulent développer ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire essayer de faire plus de choses à l'intérieur de leur entreprise. C'est pas toujours facile. Donc je suis mille fois d'accord avec vous, et je pourrais même aller plus loin dans l'analyse en disant que on dit souvent que le pays tient grâce à ses filets sociaux, etc., ce qui est vrai. On l'a bien vu pendant le Covid, les Français ont été protégés, et c'est très bien, moi j'ai soutenu ça, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais le pays tient aussi grâce à une espèce de débrouillardise française qui est liée, on trouve ça aussi en Italie, hein, typiquement, qui est liée à une espèce de capacité entrepreneuriale qui permet de se débrouiller. D'ailleurs, moi, je considère que l'une des plus grandes réformes qui a été faite ces 30 dernières années, c'est celle de notre ami Hervé Novelli, qui a introduit, vous vous en souvenez peut-être, Yannick, ça devait être en 2008, quelque chose comme ça, 2007-2008, il a introduit l'auto-entrepreneur. Ce qu'on appelle maintenant la micro-entreprise, qui est un de ces petits changements en France, c'est une révolution silencieuse, hein, il y en a comme ça, mais ça a changé la société française. C'est une réforme qui a rencontré un engouement très fort de la part de nos concitoyens, et quand les socialistes, quand François Hollande et Michel Sapin ont voulu revenir dessus, ils n'ont pas réussi, parce qu'il y a eu une opposition très forte, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose de...
Oui, mais c'est un statut d'auto-entrepreneur très encadré, très social.
Oui, mais là, vous en demandez trop.
Socialiste, quoi, voilà.
Ouais. Mais là, mon cher Yannick, vous en demandez trop. On est en France, quand même. Donc on a aussi cette histoire d'un État très, très centralisé, avec une vision descendante du libéralisme, qui est d'ailleurs celle du président de la République actuelle, hein, qui est de dire, au fond, je suis plutôt libéral sur le plan économique, mais ce libéralisme doit venir de moi. Au fond, c'est moi qui donne les libertés, c'est moi qui restreins les libertés. Donc on est dans cette espèce de centralisme qui avait été, j'en parlais tout à l'heure, déjà très bien vu par Tocqueville, hein, parce que l'idée de Tocqueville, qui est quand même une idée grandiose, génialissime, c'est que, alors faudrait, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'insoumis qui vous écoutent, Yannick, j'en suis pas complètement certain, mais l'idée géniale de Tocqueville, c'est de dire que, au fond, la révolution française n'a pas changé ce qui fait le trait fondamental de la France, qui est son centralisme.
Quand je pense à notre conversation, lorsque je vous écoute, je pense à l'Afrique et au monde arabe, et à l'économie informelle. Alors l'économie informelle, il est difficile de la chiffrer, puisque par définition, elle est informelle. Mais quand vous allez en Afrique ou dans le monde arabe, c'est cette économie informelle qui en font des gens, des peuples très libéraux, finalement. Ils sont dans le libéralisme à 100%, et c'est ce qui permet aussi de tenir ces pays. On se dit que si un jour l'économie informelle était combattue à 100%, elle disparaîtrait, ces pays tomberaient en ruine et il y aurait des révolutions.
Oui, mais Yannick, on parlait tout à l'heure de la décroissance. On a commencé l'entretien par ça. Mais ce que vous dites, c'est que les humains, ils veulent améliorer leurs conditions matérielles. C'est ça.
Au fond d'eux-mêmes,
finalement. Mais bien sûr. Et en plus, ils le veulent pas seulement pour eux, mais ils le veulent pour leurs enfants aussi, pour leur famille. Et donc, les gens, si vous leur mettez en permanence des bâtons dans les roues, etc., ils vont quand même essayer de se débrouiller, ils vont essayer d'améliorer leurs conditions matérielles. C'est la raison pour laquelle le discours décroissant ne peut pas marcher. Vous pouvez pas, alors comme vous disiez très bien tout à l'heure, si, vous pouvez aller voir des gens très riches et leur dire, on va tout faire diminuer, on va faire diminuer les revenus, ça vous pouvez, des gens très riches. Mais des gens qui ont des difficultés, qui veulent s'en sortir, qui veulent transmettre quelque chose à leurs enfants, vous pouvez pas leur dire ça. C'est impossible. Et c'est en cela, vous avez mille fois raison, que l'écologie politique est une écologie aujourd'hui plutôt pour les riches, alors que je défends moi, mais bien d'autres, c'est plutôt pour les gens modestes. C'est donc l'inverse de la caricature que l'on en fait en permanence. Moi, on me dit souvent, vous savez, j'ai eu quelques problèmes ces derniers mois avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Insoumis, et on me présente toujours comme l'économiste proche des puissants, enfin, je sais pas quelle bêtise. Mais c'est l'inverse. Eux se sont arrogés le monopole du peuple, mais ils l'ont pas. Moi, quand je vois les commerçants, les gens dans la rue, les chauffeurs de taxi, ils me disent, mais c'est avec vous, on est d'accord avec vous. On veut travailler. Par contre, ce qu'ils me disent, c'est on veut gagner plus d'argent. Ça, c'est vrai. Là, il y a des revendications, par exemple, pour les salaires en France qui sont importantes. Mais moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me disait, mais moi, je veux plus travailler, ça m'intéresse pas, je veux rien transmettre à mes enfants. Ça n'existe pas, ça. C'est des exceptions. C'est pas l'aspiration populaire.
Vous évoquiez ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon et puis des articles de presse, Nicolas Bouzou, vous concernant. Je remarque qu'en France, on n'a plus le droit de débattre. Dès qu'on appartient dès qu'on est catalogué dans le mauvais camp pour une certaine catégorie de la population, c'est qu'on est vendu, c'est qu'on est extrémiste, c'est qu'on est à abattre. On a connu des décennies de débats. Je prends souvent cet exemple, à l'époque de Michel Pollack, par exemple, vous aviez le journaliste de Minute et le journaliste de L'Humanité, ils pouvaient s'insulter, et ils s'insultaient même par colonne interposée. Le journaliste de L'Humanité disait que Minute sont des ordures, et Minute disait que L'Humanité c'est des ordures. Mais personne ne finissait l'article en demandant l'interdiction de l'autre. Oui. Personne, ni L'Humanité, ni Minute. Aujourd'hui, on ne s'insulte plus, on ne débat plus, quoi, finalement, parce que l'insulte, c'est finalement le débat, hein, cher Nicolas. Mais on demande tout de suite l'interdiction de l'autre, dès qu'on n'est pas d'accord. Et vous, on vous demande, on dit, Nicolas Bouzou, on doit le faire taire.
Oui, alors après, il ne faut pas se laisser trop impressionner par ça, hein. Ça peut être impressionnant sur le moment, mais bon, après, il faut prendre du recul. Et surtout, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est de se dire que ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort et ce ne sont pas ceux qui prétendent parler au nom du peuple qui, justement, représentent ce peuple ou qui retranscrivent correctement les aspirations de la plus grande partie de nos concitoyens. Moi, je vous le répète, ce que veulent nos concitoyens, c'est ils veulent travailler, ils veulent bien gagner leur vie, ils veulent des services publics qui fonctionnent bien, alors ça c'est pas toujours le cas, ils veulent un hôpital qui fonctionne bien, qui fonctionne mieux, ils ont bien raison, ils voudraient une école qui fonctionne mieux et ils ont bien raison. Voilà, donc en fait c'est pas très compliqué et il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, c'est pour ça que tous ceux qui sont justement des révolutionnaires, etc., se prennent assez régulièrement des râteaux électoraux, parce que les gens ne veulent pas la révolution. En revanche, les gens, ils veulent que le travail soit justement rétribué, et ils veulent aussi, c'est très important, que en France les impôts sont élevés, les prélèvements sociaux sont élevés, c'est comme ça, ils veulent que ce soit bien utilisé et qu'il y ait des services publics qui correspondent au montant financier que l'on place dans ces services publics. Et ça, en France, là, pour le coup, on n'y est pas.
J'aimerais terminer cet entretien avec un dernier chapitre, une dernière question sur un sujet sur lequel vous exprimez évidemment souvent, y compris sur Europe 1, Nicolas Bouzou, c'est les sanctions sur la Russie. Oui. J'ai plusieurs réflexions là-dessus, et ce sont des questions, évidemment, réflexions. Je me dis que on serait en bras de fer. Je vais pas employer le mot guerre puisque le président de la République n'a pas employé le mot guerre. Donc je vais dire le bras de fer. Contre la Corée du Nord, contre l'Iran, 80 contre l'Afghanistan, 99,9% des Français seraient soudés dans ce bras de fer. Dans le cas de la Russie, on voit bien, on a des chiffres divers, on pourrait dire qu'il y a 20 à 30% de ce que vous appelleriez les poutinophiles, poutinolâtres. Oui. Bon. J'ai réfléchi là-dessus, j'ai interrogé, évidemment. Mmh. Les gens vous répondent toujours le même truc. Ouais, mais c'est parce que moi je suis malheureux, parce qu'en France, on nous a confinés, ceci, alors qu'en Russie, on les a confinés aussi un peu de la même façon. Hein. Ouais, mais en France, on a eu ceci, etc. Et comment se fait-il qu'il y ait, c'est intéressant peut-être sur le plan psychologique, hein, un degré de mal-être chez beaucoup de nos compatriotes. C'est ça le problème, point de préférer un régime dans un bras de fer où les mêmes qui vivraient à Moscou, on leur donne une valise, on dit tu pars à Moscou 15 jours, ils reviendraient en pleurant, en disant je veux rester vivre en France. Alors on est tous d'accord. Qu'est-ce qui se passe sur le plan psychologique? Est-ce qu'on n'a pas un problème, nous aussi?
Oui, complètement. Alors je ne veux pas anticiper sur mon prochain livre, et puis peut-être Yannick me ferez-vous l'honneur de me réinviter au printemps quand je sortirai le prochain ouvrage. Mais en fait, ce que j'explique, c'est un ouvrage qui porte sur la France et je m'interroge beaucoup sur ce que vous dites parce que il y a un vrai malaise français. Mais vous avez mille fois raison. Mais je pourrais multiplier les exemples. Je pourrais vous dire au fond pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations en France et des grèves alors que la France est l'un des pays qui a le plus protégé ses concitoyens financièrement. Hein, j'entends, elle a le plus protégé ces dernières années. Il me semble que il y a en France une divergence entre les aspirations des Français qui demandent le mieux pour leur pays, et ils ont tout à fait raison, donc ils veulent une meilleure école, une meilleure université, ce ne sera pas dur, un meilleur hôpital, j'en parlais tout à l'heure, des personnalités politiques de meilleur niveau, etc. Donc ils veulent l'excellence, mais la France aujourd'hui n'est pas un pays qui se donne les moyens d'excellence. C'est un pays où on ne travaille pas assez, où on ne travaille pas assez longtemps, où l'autorité, la saine autorité est quelque chose qui tend à disparaître, les services publics fonctionne pas bien. Et donc, il y a un écart entre les aspirations des gens et les moyens que nous nous donnons collectivement et qui sont insuffisants. Et ça crée une espèce de malaise, une espèce d'angoisse et une râlerie, un vent de fronde qui est un peu permanent. Et du coup, en effet, on voit avec les yeux de Chimène des modèles qui sont des... Vous savez, Yannick, je sais que c'est peut-être un point de désaccord entre nous, mais j'ai été moins sévère que vous avec les mesures de restriction qui ont été pendant la période du Covid. Mais peut-être un point sur lequel on pourra se mettre d'accord, c'est que les restrictions qui sont encore en œuvre aujourd'hui en Chine...
Ah bah c'est un régime communiste, là c'est à la trique.
N'ont rien à voir avec ce qu'on a connu en France. Et pourtant, combien de fois m'a-t-on dit, y compris de certains de mes amis libéraux, on dit, mais ces restrictions que tu soutiens, elles vont, c'est l'équivalent de la dictature, c'est l'équivalent de la Chine. Non. Aujourd'hui en Chine, à Shanghai, qui est une ville qui, d'après le gouvernement, a été libérée des contraintes, c'est un test PCR obligatoire tous les jours. Écoutez, j'ai pas très envie d'y aller. Hein. D'ailleurs, tous les expatriés s'en vont. Hein.
Vous voyez partout. Donc, et quand il y a le moins de Covid, ils sont enfermés dans la chambre d'hôtel avec le plateau repas qui arrive.
C'est terrible quand même. C'est pas. Enfin, vous voyez, rationnellement, on peut.
Ça s'appelle un régime communiste, hein, Nicolas.
Mais bien sûr, mais ça, j'ai pas de beurre. Je suis d'accord avec ça. Mais oui, rationnellement, on peut pas se dire c'est comme chez nous. C'est pas vrai. Même la boule au pire moment du premier confinement, c'était quand même pas ça.
Non, mais ça n'a jamais été le cas chez nous. On pouvait quand même sortir, faire ses courses. Il y avait le ridicule de s'auto-attester pour aller faire promener son chien. Après, il y a d'autres réflexions plus économiques sur les petites entreprises. Tout le monde n'a pas été aidé. Ça, c'est un autre sujet. On va pas revenir
là-dessus. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait ouvert.
Je considère que les secteurs interdits ont été aidés et les secteurs non interdits sont passés entre les mailles du filet. Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est un autre débat. On peut avoir, mais c'est un peu différent. Oui.
Personne n'a dit qu'en France, on était dans une dictature par rapport à ce qui se passait dans des pays comme en Chine. Hein. Voilà, évidemment. Oui. Merci Nicolas Bouzou. Dernier livre en date, c'est pour un libéralisme populaire. On attend avec impatience l'autre ouvrage. Hein. Voilà, l'autre ouvrage. Donc, vous nous avez... Et là, on a eu un scoop, en plus, ce que vous nous avez donné.
Je peux même vous donner le titre. Ça s'appellera « La France de l'à peu près » aux éditions de l'Observatoire et ce sera en mars.
On est dans l'à peu près, en fait.
Mais oui,
on ne va jamais au fond des sujets.
Oui. Pour ça que
est-ce que la France de l'à peu près, c'est la France qui regarde Twitter tout le temps, Instagram?
Ouais. Ah ben voilà, exactement, on est d'accord, c'est ça. On s'en reparlera, si vous le voulez bien.
Merci, Nicolas Bouzou était mon invité. Oui.